Ça c'est Superbox, ça c'est la fabrication hollandaise. Il y en a plein de qualités, mais c'est ce que les gens consomment beaucoup en Guinée ici. C'est des super de Inowax qui viennent du Côte d'Ivoire. Ça c'est Superwax.
Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages.
Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
Une femme, tout le moment de sa vie, a besoin une fois au moins de s'habiller en mode.
J'en ai beaucoup à la maison que j'ai cousue. J'aime vraiment ça. Je me sens un peu en mode africain dedans.
Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
Je ne considère pas que le wax soit un tissu africain, mais pour moi, c'est davantage une étoffe de la rencontre des trois continents, asiatique, européen et africain.
Bonjour à tous, des marchés d'Afrique de l'Ouest aux échoppes de Château-Rouge à Paris, en passant aujourd'hui par les défilés des plus grands créateurs de mode, de Milan à New York. Le wax est un tissu qui attire l'œil et suscite l'engouement autant que le débat, en Occident du moins. Car en Afrique, ce textile imprimé au moyen de cire, d'où son nom en anglais wax, ce tissu donc, aux couleurs vives et aux motifs très parlants, demeure le plus couru du continent. Tissu emblématique né au temps colonial, le wax est un pur produit d'importation, qui a voyagé de l'Asie vers l'Europe pour finalement être adopté en Afrique jusqu'à se confondre même avec un tissu africain. On parle souvent de la route de la soie. Eh bien nous allons partir pendant 2 semaines sur la route, les routes du wax, à cheval sur 3 continents. Des routes qui nous révèlent un monde de négoces et de jeux d'influence entre ceux qu'ils portent et ceux qu'ils fabriquent, un monde de colons missionnaires et de femmes africaines émancipées, un monde d'étoffes aux allures de messages codés ou de vecteurs identitaires, objets d'études, de contrefaçons et de passions. Un monde de wax, épisode 1, c'est un reportage de Vladimir Cagnolari qui débute avec une voix complice et amie dans les rues de Paris.
Monsieur Soro.
Oui.
Comment ça va?
On se porte bien.
Bon, c'est Paris, c'est le début de l'automne, il commence à faire gris, les feuilles commencent à tomber. Mais on va quand même aller ensemble chez une couturière qu'on connaît, parce que des couturières africaines ou qui font de la mode africaine, il y en a plein à Paris.
Oh là, je crois que Paris est saturé. Non seulement, bon, là où nous sommes dans le 20e, il y a la couturière Paul-Élise, mais quand on arrive aujourd'hui à Château-Rouge, les couturières spécialisées dans le stylisme africain, mais c'est versé comme le sable à mer. Il y en a partout, même des chaussures, mais enfin, les accessoires, les sacs à main, les porte-ordinateurs, porte-tablettes, tout ça, ça se fait avec du pagne imprimé qu'on appelle, je ne sais même pas pourquoi, le pagne africain, notamment le wax. Et là, c'est versé partout ici dans Paris maintenant. Il n'y a que de la couleur, il n'y a que du pagne.
Vas-y, entre. Paul-Élise.
Oui, comment ça va?
Écoute, on va bien. Content d'être venu chez toi. Ça fait longtemps.
Il y a longtemps, il y a très longtemps que vous êtes venu. Hein.
Oh, mais ça... c'est bien, on voit que tu es toujours aussi active. Il y a toujours du monde qui passe.
On essaye.
Les Blancs viennent chez toi aussi.
Oui.
Est-ce que tu fais partie de ceux qui essayent de les convertir à la mode africaine?
Je crois bien, j'essaye de les... Comment on dit là? J'essaye de styliser mon pagne africain pour qu'ils puissent s'habiller avec ça.
Ça veut dire que tu leur fais des coupes un peu spéciales que tu ne ferais pas forcément de la même façon en Afrique?
Non, c'est pour que les Occidentaux puissent mettre ça. Parce que des fois, ils rentrent et puis ils te disent « Ah, ça ressemble à Boubou, que je ne vais pas mettre ça pour sortir. » Ou bien il y a d'autres qui me disent « Ah, je ne vais pas me déguiser. » Il y a d'autres qui sont très contents de s'habiller avec ces pailles.
Depuis, ça fait un moment qu'on se connaît, mais c'est quand exactement que tu as ouvert cette boutique Coupe Splendeur?
Je l'ai ouvert depuis en 2000.
Ça fait 2000, donc presque 20 ans.
20 ans.
C'était une sorte de pari quand même.
Bon, c'est une histoire de pari, mais au début, j'avais un peu peur. Ce n'était pas très à la mode. Et des fois, les gens, ils viennent, ils pensent que je cours en Afrique pour venir vendre. Je dis non, c'est moi qui fais les coupes ici.
Ce que fait Paul-Élise, en fait, elle fait des chemises avec pratiquement tout en pagne.
Et la toile tissée aussi.
Oui, ta toile tissée plus traditionnelle, du coup.
Des chemises, des pantalons, des jupes. Bien sûr, il y a des masculins, féminins. Et on peut trouver de tous les goûts.
Il y a aussi du wax.
Celui-là serait beaucoup plus du wax authentique. Mais j'ai même oublié le nom de ce motif. Parce qu'en fonction des motifs, les femmes, les consommatrices, donnent des noms au pagne. Et celui-là, j'ai oublié le nom, mais je le trouverai.
Tu vois aussi, là, juste derrière toi, Solo, on a un pagne orange avec comme un chasse-mouche de chef.
Ça, c'est le chasse-mouche des rois.
Un roi.
D'un roi, ça.
Un insigne traditionnel de royauté, quoi.
De royauté.
il faut préciser que c'est inspiré de la queue de cheval. Ouais. Et dans cette forme-là, non seulement c'est un des signes distinctifs des nobles qui tenaient ça, mais aussi dans les rituels sacrés de danse. En pays Senoufo, par exemple, ce type de chasse-mouche, comme on l'appelle communément, qu'on tient pour danser. Parce que quand on danse, ça fait comme une espèce de bouquet qu'on agite au-dessus des têtes pour danser. Et ça donne, comment on l'appelle, une image agréable à voir.
Nous, on n'appelle pas une de roi. Après, il y a le mari capable que je n'ai plus.
Mari capable. Ouais. Pourquoi il s'appelle comme ça, mari capable?
Parce qu'un mari qui habille toujours sa femme, qui l'habille toujours en pagne, qui achète les wax pour l'habiller, c'est là que les femmes ont nommé sa mari capable. Parce que quand elle est tout le temps bien habillée, puis elle change beaucoup de pagne. Toujours mlemlin, comme on dit là.
Mlemlin, ça veut dire qu'il fait sa marine un peu.
Mlemlin, toujours sexy quoi.
Ah non, c'est mieux que ça.
Mlemlin. Et puis, il se trouve que le wax, c'est la catégorie supérieure de tous les pagnes imprimés. Et ce motif-là était un motif tellement varié, tellement bien recherché, qu'il était l'un des pagnes les plus chers. Donc il n'y a que les maris qui sont capables, qui ont les grands moyens, qui peuvent habiller leurs femmes avec ce type de pain. Et donc les femmes ont appelé ce pain-là mari capable.
Mon mari est capable, Alinga Kaye Olion Sonda Zouaga. Natonina Kona Sanza Motoba, Baninga Bakamui Ndengena Zouaga. Zela ya poto et koma ki sosana matete, Mbula Lion Sonda Nakedaka. Mon mari n'a pas à coca, mon mari est capable, Lion Sonda Zouaga.
Alors, un gros fille, on est chez vous, là, à Saint-Laurent-du-Var.
Oui, bienvenue.
Vous faites une petite visite?
Avec plaisir.
Oh là là. Ça, c'est une surprise, dites-moi. Faut qu'on explique quand même, on vient de rentrer chez vous, dans la cuisine, et là, il y a plusieurs guirlandes avec du wax. Et il y en a une où c'est écrit...
Vladimir Wax RFI.
Écoutez, merci pour le comité d'accueil.
Donc c'est un peu la maison du wax ici. Puisque je suis chercheur, mais je suis aussi collectionneur de textiles africains. Donc il y a à la fois du wax et puis beaucoup d'étoffes artisanales de tous les pays où je suis allée. Des voiles de Mauritanie, des tissages quintés du Ghana, des tissages du Burkina Faso, du Bazin, du Mali.
Et dans cette pièce, qui est une grande pièce avec des grands rideaux qui protègent des armoires, il y a aussi un nombre de valises et de malles impressionnant. Vous partez souvent en voyage?
Là, c'est les réserves, en fait. Vous voyez aussi qu'il y a des petites étiquettes. Donc, chaque chose, il y a la valise indigo, il y a la valise, comme je vous disais, quinté, wax Vlisco, wax Uniwax, wax ABC.
Donc, toutes vos réserves sont là-dedans. C'est ça, votre coffre-fort?
Un petit peu, et puis un peu aussi dans d'autres pièces de la maison.
Comment vous êtes tombé dans cet univers du wax au tout début?
En fait, moi, j'ai découvert le wax en 1984 parce que mon oncle vivait à l'époque au Togo. Pour moi, c'était l'Afrique, puisque c'était la première fois que j'allais sur le continent africain et je croyais que juste aller au Togo, c'était découvrir l'Afrique. Et c'était la grande époque des Nana Benz. Et donc, pour moi, ce qu'elle portait, c'était forcément africain et forcément tout le monde portait ces tissus-là. Et puis, j'y suis retournée quelques années plus tard. Mais cette fois-ci, c'était au Burkina Faso, chez une correspondante, puisque mon lycée était jumelé avec le lycée national de jeunes filles, qui est devenu le lycée Nelson Mandela de Ouagadougou. Et puis, en souvenir, je voulais ramener du tissu. Donc, je dis, je vais ramener un peu de tissu africain. Et ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux? Et je dis, ce que votre maman porte. Ils m'ont dit, mais donc, tu veux du hollandais ou de l'anglais? Je dis, non, du tissu africain. Et ils m'ont dit, non, mais tu sais, ma maman ne porte que du hollandais ou de l'anglais. Et j'ai dit, mais c'est incroyable cette histoire. Et donc, ça a été un déclic de se dire, tiens, c'est incroyable que ce tissu soit fabriqué en Europe pour l'Afrique. Surtout que c'est un tissu qui a des motifs très, très forts. C'est pas comme s'il y avait des rayures ou des pois. C'est un tissu qui est porteur de messages, d'identité quelque part. Et j'ai commencé à travailler sur le wax pour appréhender l'altérité, C'est-à-dire pas dans un conflit de dire il y a de la réappropriation culturelle, etc. Mais c'est de voir comment cette histoire de rencontre des continents, qui a été dans un contexte au début impérialiste, colonialiste, finalement, ce tissu accompagne aujourd'hui toute la mondialisation et toutes les transformations à la fois de l'Europe, de l'Afrique et puis aussi de l'Asie, puisqu'on est vraiment à la rencontre des trois continents asiatiques, européens et africains.
Dans ce monde de wax, la chercheuse et anthropologue française Anne Grosfillet, qui est allée rencontrer Vladimir chez elle dans le sud de la France, fait donc figure de passeuse, d'experte. Dans les années 90, elle s'installe en Angleterre, à Manchester, jadis épicentre de l'industrie textile et concurrent historique des Hollandais en matière de wax. Puis en France, elle obtient une bourse de recherche et sillonne le Mali, le Burkina, le Ghana et le Togo sur ces fameuses routes du wax. Elle a écrit deux livres très instructifs et richement illustrés sur le sujet, dont le dernier sobrement baptisé « Wax, 500 tissus » est sorti aux éditions La Martinière. C'est donc elle qui va nous guider dans ce monde haut en couleurs, né il y a de cela plusieurs siècles.
Tout commence au 19e siècle, à une époque où j'aime bien dire que l'Europe aimait vendre de la glace aux Esquimaux. C'est-à-dire que l'Angleterre et puis aussi quelques villes en France s'étaient mis à reproduire des indiennes, c'est-à-dire les tissus qui étaient imprimés en Inde. Ils les imprimaient en Europe, ils faisaient des copies si vous voulez, et ensuite ils les revendaient aux Indiens. Ça marchait très bien.
Ils les vendaient moins cher, j'imagine, parce qu'ils les produisaient de manière très industrialisée.
Oui, et puis aussi parce qu'il y avait un contexte...
un peu forcé, quoi. De vente un peu forcée, coloniale.
Voilà. Et à l'époque, donc, la Hollande était dans ce même contexte un peu de suprématie dans l'archipel indonésien. Et ils se sont dit, bah, tiens, on va faire la même chose avec le batik indonésien. La différence, c'est que le processus du batik est très, très complexe.
Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots ?
Oui. En fait, c'est un tissu qui est réservé des deux côtés. C'est-à-dire qu'on fait le dessin d'un côté de l'étoffe, on la retourne et on le fait ensuite de l'autre côté.
À l'identique.
Exactement. Le tracé des dessins, des motifs, est fait à base de cire. C'est ce qui empêche la teinture de pénétrer et qui fait que le motif apparaît en clair sur le fond foncé qui a été teint. Et on imprime les couleurs au tampon par-dessus. Donc en général, on a une base indigo, bleu, et puis après des couleurs brunes. Donc pour industrialiser cette technique-là, ça a pris plusieurs dizaines d'années. Et quand les Hollandais arrivent avec ces batiks en Indonésie, non seulement pendant ce temps-là, le contexte économique a changé, donc ils ont perdu leur mainmise pour vendre leurs produits manufacturés. Et puis aussi, les artisans indonésiens ont mécanisé leur système d'impression, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler avec un petit stylet, ils ont élaboré des tampons en cuivre.
Que vous montrez là.
Voilà, que l'on appelle chap. Donc, ces tissus n'étaient plus très concurrentiels du point de vue économique. Et puis, du point de vue esthétique, ça ne plaisait pas non plus aux Indonésiens, parce qu'il y avait des craquelures, alors que le batik indonésien est très propre, très net. Il n'y a aucune veine, aucune marbrure, aucune craquelure.
Donc les Hollandais, ils arrivent avec leur batik industriel. Bon, ils sont en position moins dominante et ça ne plaît pas du tout aux Indonésiens, si je comprends bien.
Et ils se disent, quel travail, on ne va quand même pas abandonner comme ça, parce que... Ça a été des années de recherche, donc il doit bien avoir quelqu'un à qui ça va plaire. Et tout d'un coup, il y a un commerçant écossais qui s'appelle Ebenezer Brown Fleming, qui avait des contacts avec des missionnaires dans le golfe de Guinée et qui dit « Mais il faudrait peut-être essayer ici parce que nous, les missionnaires, on vient d'implanter la machine à coudre. » Et ils sont à la recherche finalement de cotonnades très très fines. Les tissages de coton filés, tissés à la main, sont trop épais. Et vos tissus qui sont à base d'indigo et de couleurs brunes, un peu comme à la fois les bogolans, les teintures à l'indigo, à la cola.
Ce sont des teintures traditionnelles, hein, africaines.
Voilà. Ça peut correspondre à leurs critères esthétiques. Et donc ils arrivent avec ces tissus. Et un des tout premiers dessins, c'est celui de la main. Donc là, on est en 1895. Et ce tissu, cet original, arrive, on va dire au Ghana, mais qui était le Gold Coast. Et c'est un succès pratiquement immédiat.
Quand vous me dites que ce tissu-là qu'on voit ici, effectivement, c'est un tissu couleur bleu nuit, indigo, donc avec des mains marbrées et des petits points sur ses mains, vous dites que c'est un original, il date quand même pas de 1895.
Si.
Il paraît flambant neuf.
Oui, oui, c'était un coton de grande qualité, avec une impression qui visait un marché avec un fort ensoleillement, des techniques de lavage avec des savons aussi un petit peu abrasifs. Donc ça, dès le début, le wax a été pensé comme un produit de luxe et pour une élite qui voulait se distinguer avec un produit venu d'ailleurs.
Depuis que c'est à la mode, et tous les mamans maintenant qui viennent, deux fois elles sont enceintes, elles n'ont même pas encore accouché, elles veulent une robe ou bien une chemise pour son fils qu'elle va accoucher. Il y a une aussi cette année qui est venue, car sa fille, elle a 2 ans. Elle a la crèche. Elle est venue, elle a acheté une robe, du coup elle m'a ramené toutes les petites filles de la crèche. Conséquent, ça s'est su. Dès qu'il y a une qui a ça, tout le monde veut. Même tous les bébés, tout le monde veut du wax, même parce que ça y est à la mode.
Ta clientèle aujourd'hui, elle est autant française sans relation ouais. avec l'Afrique,
non,
française couleur
tout.
Vin rouge
ouais,
de Bordeaux,
ouais, ouais.
que originaire d'Afrique.
Ouais. Là, la clientèle maintenant, depuis 20 ans, c'est beaucoup de Français et j'ai les Américains aussi. Donc maintenant, les clients ils viennent un peu partout.
Et toi, pourquoi tu aimes bien travailler le wax?
J'aime bien travailler parce que c'est la matière qui est très très souple. Uniquement toucher le pagne et couper. Ça, c'est un grand plaisir pour moi. Je ne sais pas comment vous expliquer quoi. C'est très agréable à travailler le wax parce que c'est du coton.
Et puis, parce que j'imagine que quand on coud des robes, notamment, ouais. ou bien des vestes ou des pantalons, comme tu fais aussi. Ouais. Bon, après, il y a tout un art aussi de savoir marier les motifs ensemble.
C'est très, très important parce que moi, c'est par rapport à les motifs que je fais mes coupes. Par exemple, je vais faire une robe de soirée qu'on me demande, je sais comment les placer pour que ça tombe, pour que ça donne bien.
Et tu t'approvisionnes où, par exemple, pour tes wax?
Je n'achète pas ici, je les achète tous en Côte d'Ivoire. Au moins, je suis très sûre que le pain il n'est pas mélangé parce qu'il y a beaucoup de wax qu'on trouve ici en France qui sont fabriqués en Chine et puis en Inde. En Chine, c'est la vraiment très mauvaise qualité. Ça, on ne va pas se cacher la face. En Inde, c'est moins. Mais tout ce qui est fabriqué en Afrique, c'est la bonne qualité. Moi, je la commande directement. Ma soeur, elle achète à Bijan. Elle m'envoie les photos, tous les pains qui sont à la mode. Et je regarde et je prends un, je coupe, je mets en vitrine. Quand ça plaît, et puis je commande le stock.
Ah, d'accord. Donc tu testes. D'abord, il y a la mode abidjanaise.
Ouais.
Tu testes ça ici. Si ça prend sur les Parisiens, tu envoies.
Oui, c'est comme ça.
Abidjan, capitale du wax, c'est un titre que la ville ivoirienne ne renierait pas. Même s'il faut le reconnaître, Lomé, au Togo, a longtemps joué un rôle primordial dans la diffusion du tissu en Afrique de l'Ouest et même en Afrique centrale. On peut citer aussi Elmonde, bien sûr, en Hollande. Une petite ville de 90 000 habitants où la marque Vlisco, fondée en 1846 et rivale historique de sa cadette ABC en Angleterre, fabrique ses célèbres wax hollandais. Dans une usine qu'on aurait bien aimé aller voir de plus près. Mais Vladimir n'a pas obtenu l'autorisation. Qu'importe, Uniwax à Abidjan et son PDG Jean-Louis Ménudier, en Côte d'Ivoire depuis 25 ans, nous ont, eux, ouvert les portes de leur usine. Uniwax, c'est une filiale du groupe Vlisco dont les ateliers, en Hollande et en Afrique, génèrent en tout plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Installé à Yopougon, Uniwax emploie donc 780 salariés et produit chaque année 23 millions de yards de wax, soit à peu près 3 fois la distance entre Paris et Abidjan.
Cette usine a été créée en 1968. C'était un transfert de technologie organisé par le groupe Vlisco, qui à l'époque produisait uniquement ses pagnes wax aux Pays-Bas, et a décidé de délocaliser une partie de sa production sur le continent africain, avec une usine au Ghana en 65 et une en Côte d'Ivoire en 68.
C'était l'époque des indépendances, enfin on était quelques années après. C'était dans l'air du temps justement de délocaliser la production. Pourquoi on l'a fait ?
Alors on l'a fait, je pense, en partie aussi sous pression des dirigeants politiques de cette période d'indépendance, hein, Houphouët-Boigny en particulier en Côte d'Ivoire, qui a mis une certaine pression pour qu'il y ait une production nationale plutôt que de ne voir que des importations hollandaises.
Et du coup, depuis lors, cette usine est une des rares qui reste à produire du wax en Afrique.
Il n'en reste plus beaucoup, effectivement. Il en reste trois. Une au Ghana qui fait partie de notre groupe, celle-ci en Côte d'Ivoire, et une au Nigeria d'un concurrent qui a beaucoup de difficultés et qui fait des très petites productions.
Bonjour.
Vous avez ici 15 dessinateurs dans ce studio dessin qui créent à peu près 1400 nouveaux dessins par an.
C'est-à-dire que tous les dessins que vous imprimez ici sont faits ici.
À 92%. On a 8% actuellement d'anciens dessins qui sont ce qu'on appelle des dessins classiques.
Donc l'enjeu d'un studio comme ça de dessin et de création, qu'est-ce que c'est ?
Ah, c'est de créer rapidement des œuvres originales, si vous voulez, qui vont plaire immédiatement aux consommatrices, aux consommateurs, et qui font la différence par rapport à la copie des dessins précédents, malgré le prix, puisque le prix de nos produits est quand même entre 3 et 8 fois supérieur au prix de la contrefaçon d'Asie.
Donc les dessins, comme on voit là, ce sont ceux qui viennent d'être créés.
Oui.
Quelle est la suite du processus une fois qu'on a créé le dessin ?
Alors vous allez le voir dans la visite, juste après la maquette, donc on va digitaliser cette maquette, c'est-à-dire nettoyer les petites imperfections qui proviennent du créateur, mettre la lisière en français d'un côté, en anglais de l'autre, le numéro du dessin, la marque sur la lisière du tissu, et ensuite ça partira et à la gravure et à l'impression. Voilà, nous voici chez Annabelle qui est la directrice de la création Uniwax, et on a la chance d'avoir
Annabelle.
Également Patrick qui a dirigé la créa de cette société pendant plus de 30 ans et qui est maintenant à la retraite et qui œuvre en tant que consultant pour transférer tout son savoir, toutes ses connaissances à Annabelle qui nous a rejoint il y a quelques mois.
En fait, c'est simple. Le WAX a commencé il y a 170 ans. Donc mon rôle, c'est de connecter le passé avec le futur.
Bonjour.
Bon, là, ici, c'est quasiment 50 ans du New WAX. Et également, on a plus de 100 ans de biscuit. Donc l'origine de tout, c'est le biscuit. Et au départ, l'origine, c'est l'Indonésie. Tu as le H1. Sors-moi le H1. Le H1 et le 001. Allez-y. H1, 001.
Ça, c'est des motifs qui ont plus d'un siècle.
Là, ça a 170 ans. Voilà, ça c'est le 001, c'est une peau de bête.
Ça sent une peau de panthère un peu.
Regardez, tout ça là.
Et à chaque fois, il y a ces déclinaisons en couleur.
Voilà, et ça c'est le H1, et on s'aperçoit que c'est des dragons. Donc quand on regarde les premiers dessins de Bisco, c'est tous des dessins d'origine indonésienne, avec plein de symboles indiens, il y a des croix, il y a des étoiles. Et petit à petit, les Hollandais ont dit, mais pourquoi envoyer des éléments indonésiens à des Africains, alors qu'on peut très bien faire des éléments africains pour les Africains. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à dessiner eux-mêmes. Et petit à petit, il y a des dessins qui ont été célèbres. Le premier, c'était ABC, où on voyait un tableau avec des craies, un tableau, des crayons, tout ça. Et donc, ça a été apprécié.
Et l'importance d'avoir une salle comme celle-ci, où on garde des morceaux de tissu de toutes les créations qui ont été faites, c'est quoi ?
Alors, quand on vient dans la salle échantillon, c'est pour ressortir un vieux modèle.
Qu'on va ressusciter. Parce qu'on les a oubliés, en fait.
Donc, en fait, on passe notre temps à chercher la perle rare. Puis un dessin comme ça, on le remet à l'ordre du jour, avec des techniques nouvelles et surtout des couleurs nouvelles. Par exemple, ici, on a eu une mode où tout était petit. Donc, ce dessin-là, c'est le petit Génito. En grand, il existe et on l'a créé en petit.
En fait, vous les avez réduites.
Oui, c'est ça.
En s'inspirant d'un modèle ancien.
Oui, c'est ça.
C'est comme des coquillages, un peu des coquilles d'escargot.
Oui.
Petit Génito.
Petit Génito, voilà.
D'où vient le nom ?
Le Génito, c'est. En fait, il y a deux dessins qui sont venus en même temps, le Génito et le Grotto. Grotto, c'est l'homme qui avait les moyens financiers. Et le Génito, c'est l'homme physiquement qui peut plaire aux femmes et qui peut assouvir certains désirs de la femme. Voilà.
Et que pendant que le Grotto travaille pour entretenir sa femme, elle est avec son Génito.
Voilà, avec son deuxième bureau. Mmh. Voilà. Donc en fait, il y a toujours une histoire. Mais c'est magnifique, cette histoire, parce que ça finit jamais. Et aujourd'hui, en 2019, on a encore des dessins qui sortent. Et le dernier s'appelle « Troisième pont ». Voilà.
À cause du troisième pont qui a été fait ces dernières années à Abidjan.
Après, il n'y a aucune relation avec le troisième pont, c'est juste des courbes qui se croisent. Bon, on peut imaginer que ça ressemble à un pont.
Aujourd'hui, quand vous revoyez tous ces échantillons-là, ou tous ces morceaux de tissu, est-ce qu'il y en a un en particulier dont vous êtes particulièrement fier ?
Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a trop. J'ai vendu, j'ai créé 1 milliard... de mètres. Donc, arriver à en sortir un au milieu de tout ça, c'est difficile. Par contre, on a fait des choses extraordinaires. On l'a fait en 85, on a lancé la mode du jaune vert. 4 millions de gens en Côte d'Ivoire sont habillés en jaune vert. C'était un succès fabuleux. Par contre, l'année d'après, on a dit on va faire orange et bleu et personne n'a suivi. Comme quoi, quand on en fait trop, c'est un échec. Voilà.
C'est un constant dialogue avec la société quand même.
Oui, oui, en permanence. Voilà, donc on l'apprend dans les échecs. On apprend plus dans les échecs que dans les succès. Voilà.
En tout cas, il y a une vraie résistance aussi, grâce au pagne et au wax en particulier, à tout ce qui est habillement occidental.
Alors, quand je suis arrivé, sortant de l'école, sortant de la France, déjà, dans ma société, on avait peur que la mode du wax s'arrête. 40 ans après, je peux vous dire que la mode du wax n'est pas prête à s'arrêter.
Devant la machine qui imprime le wax, la cire, donc sur le tissu, en recto verso. Nos deux cylindres gravés se trouvent à l'avant de la machine, on va les voir, immergés dans de la cire. Une racle enlève l'excédent de cire sur les cylindres et la cire est déposée à l'endroit comme à l'envers. Le tissu passe dans tout un circuit pour refroidir la cire et ensuite être mis sur des chariots pour aller à l'étape suivante qui est la teinture de base.
C'est des grands cylindres de cuivre, ils font peut-être 1,50 m, 1,60 m de haut. Et qui sont donc entièrement gravés avec les dessins qu'on a vus à la digitalisation.
C'est ça. Ils sont gravés donc par un procédé que nous avons ici. Et on grave à peu près une vingtaine de nouveaux dessins toutes les semaines actuellement. Alors vous avez ici toute la collection vivante des dessins Uniwax. Un peu plus de 1000 dessins gravés qui peuvent être commandés demain matin et être réalisés demain après-midi à la demande de nos clients. Et lorsqu'un dessin commence à être trop copié, il n'y a plus de demande sur le marché, à ce moment-là, on le dégrave et on grave un nouveau dessin à la place.
Vous êtes toujours en train de vous adapter à la demande.
C'est-à-dire que la copie asiatique, et en particulier chinoise, met à peu près 7 semaines pour arriver sur nos marchés après le lancement d'un nouveau dessin. Donc, on crée en permanence, de manière à ce que le jour où la copie va arriver, c'est pas très grave, si vous voulez, on a produit une quantité que le marché peut absorber, et quand la copie arrive, on est déjà passé à autre chose.
Ça veut dire qu'en fait, vous avez 2 mois pour vendre un maximum avant que les pirates n'arrivent, quoi.
C'est ça. Et quand on lance des collections complètes avec des supports marketing tels que magazines, panneaux, télé, etc., en général, la collection se vend sur 5 à 6 semaines maximum et après, elle est complètement épuisée, on n'en trouve plus dans les magasins déjà. Quand la copie arrive, il n'y a plus d'original.
Alors, il y a de la vapeur qui s'échappe des tuyaux.
Les rouleaux sont préchauffés. Le jeu de dessin, le jeu de rouleau suivant, si vous voulez, qui va être imprimé, est en préparation. Pour gagner du temps, on préchauffe déjà les cylindres. Voilà le tissu qui sort. Maintenant, il doit sécher. On va vous mettre le stroboscope, vous voyez, pour faire le cadrage. Cadrer l'endroit et l'envers, c'est une des opérations importantes pour l'opérateur sur la machine.
C'est-à-dire que les deux côtés soient pile-poil alignés.
Par contre, il nous arrive de faire des dessins non cadrés volontairement, pour donner des effets de demi-ton. C'est aussi un des aspects originels du batik, si vous voulez, qu'on arrive à reproduire sur le wax. Donc après l'impression à la cire, notre dessin va à la teinture. Et vous voyez les chariots de tissu qui rentrent dans les lignes de teinture de base. On teint simultanément sur différentes machines le même dessin dans différentes couleurs de base. On a 12 couleurs de base actuellement opérationnelles. Elles sont réalisées sur ces 5 lignes de teinture. Par contre, ce que l'on n'a pas vu, parce qu'on a commencé la visite de l'usine avec l'impression de la cire, c'est que le tissu doit être préparé avant cela. Notre tissu qui arrive est cru, donc des filatures tissage, doit être désencollé, débouilli, blanchi, mercerisé. Le mercerisage, ça permet d'ouvrir la fibre de coton, de la faire gonfler, la couleur va pénétrer à l'intérieur de la fibre et y rester.
Donc il y a tous ces travaux préparatoires avant de commencer à imprimer le dessin.
Et qui sont primordiaux pour la qualité finale du produit.
Cette machine-là, puisque c'est une fixation de couleurs qu'on fait ici, elle fait partie de ma zone.
Ce pagne qui est en train d'être fabriqué, il s'appelle comment?
Oh, je ne connais pas le nom, mais ça fait partie de nos pagnes super.
Vous appelez comment?
Je m'appelle M. Traoré Casimir.
Casimir, ça fait combien de temps que vous travaillez ici
ça
à l'usine?
Ça fait 25 ans maintenant que je suis à Unoise, 25 ans.
25 ans, vous êtes un doyen?
Oui, oui.
Et ce boulot, ça vous plaît?
Et très bien, ça me plaît, puisque ça me permet de nourrir ma famille, couvrir mes besoins, et donc ça me plaît beaucoup.
Est-ce que vous-même, vous portez du wax?
Ah oui, bien sûr. Bien sûr, je porte du wax. Et il faut aimer ce qu'on fabrique.
Du wax made in Côte d'Ivoire?
Et bien sûr que oui, made in Côte d'Ivoire.
Kao koko korobu, pesa bisongo ya to bare baze mezele na bantu sa esprit. To renye loko la yon la likolo, biso ba yanke la se.
Amen.
Je suis mannequin, tu es mannequin, elle est mannequin, nous sommes mannequin, vous êtes mannequin, ils sont mannequin.
Ligale ya kaluji na yakome papla ifale na tele manango nandule wana mila mirapale master batindi kaye petita bendana uta azwa lupemba azwa kiboba bachache ba miyake ba yama moto influence a coup d'ailleurs.
Après la teinture, donc consiste à enlever le wax, enlever la cire. On va la dissoudre avec un solvant et à la sortie, vous avez le dessin qui apparaît dans la couleur de teinture de base.
On peut aller voir.
C'est beau.
Ah, c'est vrai que comme on voit les tissus qui sont très sombres, on ne distingue presque rien. Tout à coup, c'est comme s'il y avait une naissance. Quoi.
Et vous avez vu ce tissu en train d'être imprimé à l'impression wax il y a 2 minutes et vous le voyez en train de sortir ici déjà. Commande d'un client, par exemple, pour ce dessin, si c'est un wax print, en 3 jours, il va le recevoir. Si c'est un wax block, une semaine.
Wax print, wax block.
Je vais vous l'expliquer. On va sortir de la zone de bruit.
Ouais.
Après avoir enlevé la cire sur le tissu, on peut finir le produit en quelques opérations après cela, et ce sera un wax print, c'est-à-dire qu'il n'aura que le dessin dans la couleur de base. Maintenant, on peut aussi y ajouter des couleurs, soit sur les motifs, soit entre les motifs. Et là, ça s'appellera un wax block. Ce nom de wax block vient du fait que les couleurs, initialement, étaient mises au tampon, à la main. On a abandonné cette technologie manuelle depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Donc, on est passé à des mises de couleurs par des procédés d'impression digitale. C'est ce qu'on va aller voir maintenant. Même si le dessin est déformé, le robot reconnaît la position de chacun des motifs du dessin et va mettre la couleur exactement à moins d'un millimètre de l'endroit où ça doit être posé.
Toute cette modernisation de la production, est-ce que ça ne remet pas en cause finalement ce vieux principe qui est qu'un wax, il est parfait grâce à ses imperfections?
Alors au contraire, les systèmes d'impression digitale numérique donc, peuvent utiliser un ordinateur assez puissant qui permet de rentrer des variantes coloristiques avec des longueurs quasi illimitées. Au lieu d'avoir une répétition au yard du cadre rotatif...
Le yard, c'est l'unité de base, c'est un peu moins d'un mètre.
C'est 91 cm², c'est l'unité de base du dessin toujours, c'est le rapport du dessin. On peut imaginer de faire des variantes de la longueur de la pièce de tissu avec chaque yard différent. C'est une question de créativité et de puissance d'informatique pour piloter cette opération-là. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on revient à des œuvres encore plus artistiques, si vous voulez, et ô combien plus rapides à mettre en œuvre et plus efficaces. On peut imaginer demain de faire des variantes de 1 km de long avec chaque mètre différent.
Un vrai wax sera toujours facilement identifiable. Il suffit d'étaler la pièce de 6 yards et de regarder à chaque fois que vous avez la répétition du dessin, les craquelures seront différentes d'un mètre à l'autre, d'un yard à l'autre.
Vous en parlez dans vos écrits, c'est que ce qui était considéré comme un défaut par les Indonésiens, justement ces craquelures qui apparaissent dans la manière industrielle de faire le wax, en Afrique, c'est ça qu'on se met à apprécier.
Et ça va devenir aussi un support publicitaire pour les véritables fabricants de wax, puisque donc chaque mètre de véritable wax sera unique et différent du suivant.
Bien qu'industriel.
Donc il y a un processus qu'on appelle les parfaites imperfections. Et donc là, on sait qu'on a un vrai tissu. Là, c'est tout ce côté fabrication qui est très très fort, mais il y a aussi la commercialisation qui est essentielle. Et c'est là que vraiment le textile rentre dans une sphère, j'ai envie de dire, identitaire africaine. C'est ce que vont en faire les femmes et notamment ces commerçantes togolaises que l'on appelle les Nana Benz. Nana Benzawo, Nana Benzawo, Nana Nana Benzawo. Nana benzawo yo yo yo. Kafu kafu ye zena mino nana we.
Nana benzawo.
Nyawe kom nyabe jwa benko iti nana wo.
Nana benzawo.
Nyabe unko pala e kikebli wa malo.
Nana benzawo.
Kafu kafu ye zena mino. Alors, au début, le tissu est vendu au Ghana. Et puis, à partir des années, vraiment la fin des années 30, plutôt les années 50, il y a des femmes qui font un petit commerce frontalier entre le Togo et le Ghana et qui vont acheter au Ghana ces wax, qui les ramènent, qui ont du succès parce qu'elles en amènent de petites quantités. Et c'est ce produit qui est très, très vif. Les couleurs sont éclatantes et donc ça tranche avec les tissus sombres, couleur terre, indigo, etc. Là, on est dans des jaunes vifs, on est dans des oranges. Et donc, il y a un succès grandissant. Et petit à petit, elles se disent, mais est-ce qu'on ne pourrait pas les faire venir au Togo et puis les vendre en plus grande quantité, voire être dépositaire du circuit de distribution. Et donc, à l'époque, ce qui se passait, c'est que les usines ne vendaient pas directement, elles passaient par les maisons de commerce. Les maisons de commerce, c'est la CFAO, Compagnie Française d'Afrique Occidentale, la S3G, Société Générale du Golfe de Guinée, l'UAC, United African Company. Et donc, ces sociétés importaient le wax et elles le vendaient ensuite à ces femmes qui étaient des revendeuses. Elles achetaient en gros. Ensuite, il y en a qui achetaient en demi-gros. Et puis, petit à petit, comme ça, jusqu'au colporteur avec sa bicyclette qui amenait une petite sélection à l'intérieur du pays. Et petit à petit, un petit groupe de 10, 15, qui va jusqu'à 30 femmes, vont avoir l'exclusivité, le monopole sur leurs dessins. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est comme si aujourd'hui, moi, Anne, en tant qu'individu, je vais voir Nike et je dis « Ok, je vous achète tout le stock de Air Force One. » Et tous les gens qui voudront vendre des Air Force One devront passer par moi.
Les acheter à vous.
Voilà. J'ai le monopole de la distribution nationale, donc au niveau de la France, et elle, c'était au niveau du Togo. Et Vlisco ne pouvait plus le vendre à quelqu'un d'autre. Une fois qu'il est passé à Madame Sanvé ou à Madame Lawson, le dessin devient son exclusivité. Donc en retour, bien sûr, elle doit en acheter des quantités énormes et c'est comme ça qu'elles ont eu cette puissance. Après, il faut le vendre, le dessin, puisque quand vous en achetez un conteneur, il faut avoir les moyens de le rendre désirable. Et ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles en ont fait des supports de langage. Donc c'est devenu bien plus que de simples tissus. C'est devenu l'œil de ma rivale, ton pied, mon pied, si tu sors, je sors. Plus récemment, le sac à main de Michelle Obama.
Et donc, c'est Nana Benz. Pourquoi on les a appelées comme ça, d'ailleurs?
C'est des femmes Mina et Eve. Donc, c'est traditionnellement des sociétés matriarcales où les femmes ont l'habitude de faire du commerce et être assez indépendantes financièrement de leurs époux. Donc, ce mot Nana, en fait, regroupe tout ça. Et Benz, en référence au Mercedes-Benz, puisque ces femmes ont été les premières à pouvoir acquérir les voitures Mercedes-Benz au Togo. Et même, leur parc automobile était parfois prêté lors de visites officielles au président Étienne Gnassingbé Eyadema, le chef d'État du Togo, pour recevoir justement des autorités. Donc ce nom Nana Benz montre vraiment qu'elles avaient un pouvoir économique et puis elles ont eu une force politique aussi. Et elles ont bénéficié, grâce à tout ça, de le statut particulier du port de Lomé qui est devenu zone franche. Et c'est ce qui fait que pendant longtemps, Lomé est vraiment restée la capitale du wax. Puisqu'après, il y a eu un engouement du wax à la fois dans les pays frontaliers d'Afrique de l'Ouest et puis aussi d'Afrique centrale. Mais tout le monde continuait à s'approvisionner à Lomé pour les tarifs intéressants et puis pour le goût de ces femmes. Cette finesse d'analyse, de subtilité, de savoir ce qui va marcher, et elle reste incontournable.
Les pains, ce sont des codes, ce sont des messages. Le fait de donner même un nom particulier à un pain, ça augmente la vente de ce pain. Et plus la demande est élevée, bien, plus le prix aussi s'élève. Paul-Élise, tu l'avais déjà, ce pain dont je veux parler, qui est un message que les femmes ont envoyé aux hommes. Parce qu'à partir de 1975, dans un pays comme la Côte d'Ivoire, pour la première fois, on a eu un ministère de la condition féminine.
Le fameux.
Voilà.
Le début de
la perte des hommes. Et il se trouve que, avec la politique d'émancipation, de la promotion de la femme, est arrivé ce que on va dire une sorte de féminisme culturellement dans nos univers culturels où la femme était jusque-là se sentait brimée par les hommes. Et donc, ce pain s'est imprimé et les motifs, c'est l'image d'une cage à oiseaux et à l'intérieur il y a une hirondelle et on voit la porte de la cage qui est ouverte et il y a une autre hirondelle qui sort de la cage à tire d'elle. Et les femmes, quand elles portaient ce pain, quand elles l'achetaient, c'est pour envoyer un message à leurs hommes. Tu sors, je sors. Les hommes n'ont plus l'exclusivité d'aller boire des coups avec leurs copains dehors, dans les maquis, dans les restaurants populaires, mais les femmes aussi peuvent sortir aller boire des coups dehors. Donc c'est un message à l'homme, si tu sors, moi aussi je sors.
Et ça veut dire que si madame portait ça...
Oui.
Bon, nous, on n'est pas...
Ça veut dire que je sors. Si tu es sorti, moi, je mets mon pain, je sors aussi.
Mais est-ce que le monsieur comprend ça?
Il comprend bien. Oui, oh là là. Comprend.
Ça, c'est des messages qu'on n'a même pas besoin de répéter deux fois. Hein? Et où il y a un autre pain qui est imprimé avec des motifs de deux pieds. Un pied qui est légèrement décalé par rapport à l'autre. Les deux pieds sont côte à côte. Et c'est le message aux hommes encore. Ton pied, mon pied. C'est-à-dire là, maintenant... Quand tu sors, nous sortons ensemble. Je ne vais pas te laisser seul aller draguer les petites filles dehors. Elle dit, je suis collé à toi. On ne se quitte plus. Ça, c'était un des messages aussi des femmes.
De coller.
Ouais, ouais. Donc, quand la femme, elle a fait son petit commerce, elle a fait ses économies, qu'elle achète ce pain wax, qui est très cher aussi, eh bien, le jour où elle porte ça, le mari comprend, oula, là je ne peux plus aller vadrouiller tout seul en ville. Donc, si je sors, elle va me suivre.
Il y a un des pagnes qui me touche beaucoup, c'est le pagne d'évaluation. C'est un pagne des années 50 qui est revenu vraiment sur le marché après 1994, donc qui fait référence à la dévaluation du franc CFA. Concrètement, c'est quand la Banque de France a décidé de dévaluer la monnaie du franc CFA.
Je crois que vous l'avez par là.
Oui, c'est des billets en fait. C'est un tissu qui était distribué par la CFAO en Côte d'Ivoire. Et les gens portent ce pagne d'évaluation, pas pour la dévaluation forcément de la monnaie, mais pour dire, par cette décision de la France de dévaluer du jour au lendemain notre monnaie, nous-mêmes en tant qu'individus, nous nous sentons dévalués.
Et au moment de la dévaluation, il fallait donc, du coup, du jour au lendemain, deux fois plus de francs CFA pour pouvoir avoir la même somme en francs français, qui était sa devise de référence. Ça a été aussi un bouleversement important dans le monde de la production du wax.
Alors en fait, ceux qui en ont bénéficié, c'était les producteurs locaux comme Uniwax en Côte d'Ivoire, qui fabrique du wax. Parce que du coup, leurs produits qui bénéficiaient d'une technologie hollandaise, puisqu'en fait c'est une filiale de Vlisco, avaient un produit de qualité qui devenait finalement très compétitif, puisque eux, leur prix ne changeait pas, alors que le wax hollandais qui était importé devenait deux fois plus cher. Et puis, en fait, la raison officielle de la Banque de France, c'était de soutenir l'exportation de matières premières, donc que ce soit le café, le cacao, mais aussi le coton. Donc les pays africains, comme le Mali, par exemple, qui sont d'importants producteurs d'or blanc, de fibres coton, ont misé finalement beaucoup plus là-dessus. Le Mali, par exemple, a clairement choisi la stratégie d'augmenter l'exportation de coton fibre. Ils se sont dit, bah, tiens, on gagne deux fois plus à ne pas transformer, à ne pas organiser de filière. On est uniquement dans une production de matières premières sans transformation.
Et ça a sonné l'arrêt d'un certain nombre d'usines sur le continent.
Alors en fait, ça a été à double tranchant finalement, parce qu'on a eu des usines qui appartenaient, en tout cas des capitaux majoritaires nationaux, comme Fassofani au Burkina Faso, Sobetex au Bénin. Finalement, il va y avoir des groupes qui s'organisent, et il y a un groupe de Hong Kong, à l'époque où Hong Kong était britannique, qui va acheter plusieurs usines. Donc il y aura au Nigeria, UNTL et Nikem, à Kosombo au Ghana, Togotex au Togo, qui fabriquait du Fancy. Et puis ils vont aussi racheter ABC en Angleterre. Là, on est dans les années 90. Donc on voit vraiment l'organisation de groupes privés, d'investisseurs étrangers, au détriment d'États majoritaires et de nationalisation d'industrie textile.
Et la grande bascule, c'est au début des années 2000, quand le marché africain est entièrement ouvert à toutes les importations.
Alors voilà, 2004, l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, arrête les quotas pour les exportations asiatiques. Et donc la Chine arrive. Et elle inonde, on va dire, vraiment le continent africain avec des imitations de wax bon marché. Imitation parce que ça n'est pas du tout le processus du wax. Donc la Chine arrive et récupère tout le marché du wax à une époque où malheureusement il n'y avait pas non plus cette conscience de consommer forcément local.
C'est une belle fable mondialisée, l'histoire du wax.
C'est vraiment un des tout premiers objets de la mondialisation. Et c'est pour ça, je le répète, que pour moi, c'est vraiment un tissu de la rencontre des cultures. Il faut vraiment le voir comme ça et voir qu'au fil du temps, son statut va changer. Donc certes, au début, il y a cet impérialisme, ce colonialisme, mais très vite, c'est un tissu qui raconte autre chose, qui raconte la force et l'intuition de ces Nana Benz, l'émergence des créateurs, l'implantation d'usines. L'année prochaine, l'usine Uniwax fêtera ses 50 ans. Donc c'est quand même une réussite aujourd'hui d'une industrie fleuron d'un continent, finalement.
Si le wax résiste, ce tissu, vous l'avez compris, ne représente qu'une petite partie des pagnes imprimées qu'on échange sur les marchés d'Afrique et d'Occident. En effet, on copie ces motifs à l'envi et l'on s'en inspire sur les fancy, des tissus imprimés, sans cire cette fois, par sérigraphie. Toile de fond d'un marché florissant, le wax demeure leader. Et en Afrique, il est encore vécu comme un produit d'exception et porté notamment lors des cérémonies. Ce qui irrite certains qui lui reprochent d'étouffer les tissages traditionnels et les savoir-faire du continent. Tout ça, on vous en parle la semaine prochaine, toujours sur les routes du wax de Paris à Abidjan, en passant par Ouaga et Conakry. Merci à Raphaël Constant pour son immersion au marché du Niger en Guinée. Vladimir Cagnolari, Laure Allary et Céline Develay-Mazurel, on vous dit à la semaine prochaine. Bonne semaine à l'écoute de RFI. Carrefour de